Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Aujourd'hui, nos ribines, encore maritimes, nous emmènent du côté d'Ouessant, en remontant le temps jusqu'à la préhistoire. Et le mieux placé pour nous en parler, c'est l'archéologue d'Ouessant, Jean-Paul Le Billon. Il fouille le sol de l'île depuis plus de 20 ans, chaque été, à la recherche des traces de l'occupation humaine insulaire. Il y a eu des Ouessantins dès le paléolithique, tout simplement parce que des hommes ont pu s'y nourrir et plus largement y vivre.
Encore vraiment prouvé, mais il y aurait des silex taillés qui pourraient remonter à cette période-là, 7-8 000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à l'époque où l'homme n'est pas encore véritablement sédentaire, il ne pratique pas encore l'élevage et l'agriculture, théoriquement. Il est évident que si on parle de population d'économie de cueillette, on ne peut pas être au bord de la mer sans aller récupérer déjà des berniques, des coquillages et pratiquer la pêche. De toute manière, je pense que tout au long de la période qui nous concerne jusqu'à l'époque romaine, la pêche à Ouessant, c'est une pêche de proximité. La ligne, certainement, également peut-être des pêcheries. Ça, c'est une vieille technique qui démarre. Et il y a un ou deux points dans Ouessant, dans la baie de l'Empole notamment, et peut-être même dans la baie du Stif, où, en fonction des niveaux effectivement de la mer, il est possible d'installer des pêcheries. Alors, une pêcherie, c'est un barrage de pierre avec armature de bois, éventuellement, semi-circulaire. Et une nasse, c'est un piège, en fait, qui bloque le poisson à marée descendante. On pêche de tout, c'est fantastique. Aujourd'hui, si vous voulez, on a une vision de la faune qui n'a, au niveau qualitatif et surtout quantitatif, qui n'a rien à voir avec ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Dans les grandes mares à marée basse, vous pouvez récupérer de tout, y compris du bar. Peut-être que vous rencontrerez la famille Grunweiser sur l'île, une des familles de pêcheurs. Sébastien me racontait qu'un jour, sa grand-mère est allée avec son landau au bord de la côte promener le gamin. C'était marée basse et elle est revenue avec un bar de 4 kilos en plus dans le landau. On est loin de l'épuisement des fonds marins. Il y a des opportunités colossales. Moi, je ne suis pas spécialisé des pêcheries, mais dès la fin du néolithique, l'âge du bronze, il y en a. Alors, il y a de l'oiseau de mer découvert dans les fouilles. Bon, il devait quand même forcément en chasser, mais c'est pas bien difficile. Hein. Chasser le goéland, ça, c'est pas un problème. Alors qu'ils en aient mangé quelques-uns, bien entendu. C'est l'intérêt, de toute manière, de ces milieux insulaires. C'est qu'effectivement, il y a naturellement un stock alimentaire, et notamment protidique, qui est fantastique. D'un point de vue chronologique, on peut considérer que l'île d'Ouessant est habité à la fin du paléolithique, mésolithique, juste avant le néolithique. On sait qu'elle est occupée, et même abondamment occupée, au néolithique, moins 5000 jusqu'à l'âge du bronze, donc moins 2000. Il y a des gisements sur l'île qui n'ont pas été véritablement exploités, et même sous le site le plus ancien de Mesnotario, de l'âge du bronze, on a énormément de traces d'occupation néolithique. On se demande s'il n'y avait pas une carrière. Il y a eu sans doute de l'agriculture. On a trouvé 10 ou 15 haches polies, ce qui n'est quand même pas rien. Des milliers de silex. Ce qu'on n'a pas pu prouver, c'est l'existence d'un village sur le lieu même. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une exploitation soit agricole, soit minérale du site.
Est-ce qu'on sait à partir de quand les Ouessantins ont commencé à vraiment naviguer pour s'alimenter notamment ?
Alors, j'ai envie de dire qu'ils ont navigué pour aller à Ouessant, déjà, pour aller s'installer. Après, il y a deux types de contacts, en fait. Il y a les contacts à longue distance, mais il y a les contacts avec les îles voisines, avec le continent, qui, encore une fois, pour cette période très ancienne, peut sembler moins éloigné dans la mesure où l'archipel de Molène est en partie exondé et que la surface de terre entre Ouessant et le continent est plus importante. Il y a ces contacts-là, qui sont des contacts quotidiens, même si on a besoin d'un arbre, d'un tronc d'arbre pour construire sa maison. Alors, ces contacts-là ne servent pas nécessairement, notamment à partir du moment où il y a des villages, à partir de l'âge du bronze, et même du néolithique, pour l'alimentation, parce qu'il y a dans l'île agriculture, céréales, élevage et pêche. C'est-à-dire que l'île d'Ouessant est un milieu qui peut être parfaitement autonome au niveau de l'alimentation. En plus, il y a aussi des matières premières intéressantes, comme l'argile, par exemple. Il y a des pierres pour construire. Il y a de l'osier pour faire des treillis, des bâtiments en pisé, en torchis. Il y a de la paille, il y a du roseau. Ne manquerait que les gros troncs d'arbres pour les poteaux, c'est tout. Mais sans ça, tout le reste existe et ils peuvent vivre en autonomie complète.
Peu à peu, Ouessant est aussi devenu une sorte d'île-étape quand la navigation s'est développée. Quand est-ce que les navigateurs extérieurs ont commencé à faire escale à Ouessant ?
Il y a deux manières de l'aborder, ou bien regarder ce qui se passe au niveau de l'Europe, et ce qui se passe au niveau de l'Europe et de la façade atlantique se passe forcément à Ouessant, puisque c'est un passage obligé. Et puis il y a ce que les fouilles elles-mêmes nous donnent, et qui sont une confirmation des hypothèses, et un élargissement d'ailleurs même des hypothèses qui étaient formulées auparavant. Alors on sait que de toute manière, il y a eu de la circulation dès le campaniforme, l'âge du cuivre, avant l'âge du bronze, vers 2000-2005. Il y a déjà eu, puisqu'on parle de diffusion culturelle, des vases campaniformes tout au long de la côte atlantique. Il y a des aspects similaires, semblables, sur les formes de céramique du nord de la France à l'Espagne. Pour arriver au contact direct et marchandises transportées, ce qui est un autre aspect, parce qu'il y a la diffusion progressive, lente, culturelle, où là, il s'agit d'hommes des idées sans véritablement route maritime établie. Et puis, il y a le moment où, effectivement, on veut transporter un produit d'un point A vers un point B, ou vice-versa. Ça, ça démarre, je pense, à l'âge du bronze. C'est-à-dire, ça doit commencer à se faire vers 2000 avant Jésus-Christ, avec une grosse phase d'accélération assez importante vers 1500-1400 avant Jésus-Christ. C'est l'époque dite du bronze moyen. Auparavant, on était dans le bronze ancien. Les produits, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'économie monde. C'est-à-dire que le monde méditerranéen et l'Europe centrale fabriquent du bronze. Le bronze, c'est du cuivre et de l'étain, 80-85% de cuivre, et le reste, c'est de l'étain. À partir de là, il faut regarder les grandes cartes de gisement de ces matières premières. Le nord-ouest de l'Europe et la pointe armoricaine, enfin l'Armorique d'ailleurs, et les îles britanniques ont de l'étain. Un des produits qui manque vers l'Europe centrale, continentale, disons, et l'ouest de la Méditerranée. Disons qu'il y a un appel d'étain. On a même à certains moments parlé de la route de l'étain de ces régions nord-ouest de l'Europe vers la Méditerranée. À partir de là, des routes vont se dessiner. Alors l'une d'entre elles, c'est évidemment la Seine, l'axe de la Seine, ensuite du Rhône, une route un peu continentale et fluviale. Mais il y a aussi une autre route qui est la voie atlantique, qui va permettre de descendre le long de l'Atlantique, d'emprunter à un moment donné les fleuves, soit la Loire pour rejoindre la région de Roanne et rejoindre la vallée du Rhône, soit descendre plus bas la Garonne, l'isthme de la Garonne, et rejoindre la Méditerranée, ou alors vers des gisements aussi plus espagnols, enfin la péninsule ibérique, et faire le tour éventuellement par Gibraltar. Parce que le nord-ouest de l'Ibérie est également les monts Cantabriques, etc. La Galice, c'est très très riche en minerais. Jusqu'à présent, on avait surtout évoqué de façon un peu rapide uniquement cette fameuse route de l'étain. Certains points n'avaient peut-être pas été soulevés, notamment le problème du cuivre. Or, on se rend compte que vers 1500-1400, cette époque appelée bronze moyen, je dirais une période de transition entre le bronze ancien et le bronze final, je dirais même entre 1500 et 1200, il y a une accélération considérable dans toute l'Europe, de la production d'objets en bronze. C'est-à-dire qu'il y a une animation. Alors que se passe-t-il ? Que sait-on pour la Bretagne ? On sait que la Bretagne fabriquait aussi beaucoup d'objets en bronze. Pour ce bronze, il lui fallait l'étain, bien sûr. Ça, on peut dire, elle l'a sur place. Mais il faut surtout beaucoup de cuivre. Et du cuivre, jusqu'à plus ample informé, des grands gisements de cuivre, en Bretagne, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, et là, effectivement, la position d'Ouessant va devenir essentielle, d'une certaine manière, il y a un double commerce qui va se faire. Il y a un commerce de l'étain qui va descendre du nord-ouest et qui va descendre pour alimenter le bassin méditerranéen et la zone continentale. Mais finalement, et ça, c'est un peu une des choses qu'on avait oubliées, c'est que l'Armorique, la Bretagne continentale, avait besoin de cuivre. Ce qu'on a un peu oublié, c'est la route du cuivre. Or, les gisements de cuivre, on va les trouver soit justement en Espagne, soit en Irlande, Pays de Galles, soit dans le sud-ouest de la France, disons dans la région des Cévennes, au sud-est du Massif central. Ça signifie que vous pouvez avoir un commerce descendant qui va descendre l'étain, mais aussi un commerce montant qui va remonter le cuivre. On peut très bien imaginer que, effectivement, ce commerce à cette époque-là ne se fait jamais à vide. On remonte du cuivre, on redescend, c'est-à-dire qu'on passe du concept de route de l'étain à celui de la route des métaux, et qui est, à mon avis, à ce moment-là, beaucoup plus ample. Ça va durer au moins jusqu'à l'Antiquité. « Alors, on a, non pas à Ouessant, mais il y a eu une épave qui a été trouvée à Ploumana dans les années 80, très très intéressante, puisqu'elle transportait une trentaine de tonnes de lingots de plomb qui venaient justement de Grande-Bretagne, du nord de l'Angleterre, côte est de l'Angleterre, et qui a le bateau a sombré entre les sept îles à Ploumana. Vers où elle est-il, on n'en sait rien. Mais ça montre bien que là aussi, le plomb, enfin, les minerais ou produits finis, puisqu'il s'agissait de lingots, ces métaux bruts là, étaient transportés par bateau. Avec le métal, je dirais qu'on tient sans doute le moteur et le point de départ. Alors après, évidemment, d'abord les échanges se diversifient. De toute manière, va se mettre en place tout un système. Et je pense que là, les îles du Ponant, disons, hein, vont jouer un rôle. Parce que de l'estuaire de la Garonne à Ouessant, pour ce qui est de la France, effectivement, vous avez tout ce chapelet. Vous pouvez parfaitement, en une journée, passer d'une île à l'autre. Après, vous avez Belle-Île, Groix, l'île de Saint au besoin. Et puis vous remontez. Vont se mettre en place des structures d'accueil, notamment des pilotes. Hein, qui sont essentiels pour la traversée de zones comme Ouessant. Et puis, cette réflexion autour, effectivement, de la religion qui accompagne forcément le voyage, qui est quelque chose de périlleux. Pour terminer là-dessus, effectivement, au début, je pense, l'élément moteur, ça a été les métaux, mais après, ces navigateurs qui s'arrêtent un peu partout ont aussi des objets, comme il faut avoir des contacts avec les populations locales, j'ai envie de dire les colifichets, les choses qu'on va offrir aux populations locales, qu'on va offrir aux dieux, etc. Et puis, quand on va arriver à l'époque romaine, déjà à l'époque gauloise, les denrées vont se diversifier, avec notamment le vin, et dès l'époque gauloise. Hein, avant, le vin a été le premier agent colonisateur de la Gaule. Et puis alors après, à l'époque romaine, vous avez toute la romanisation et la conquête de l'île de Bretagne, qui va être un peu la province ultime des Romains. Et effectivement, à ce moment-là, Ouessant, si on passe par la mer, et notamment pour la partie occidentale, la Cornouaille, etc., c'est la dernière escale. Et là, les transports, les matériaux vont se diversifier et s'amplifier. La route sera de plus en plus connue. La première fois qu'on évoque la mise en place de cette ligne, dans le fond, c'est avec Pythéas, puisque lui a eu la bonne idée d'écrire. Pythéas est un Marseillais, un astronome, scientifique, ethnologue marseillais qui a organisé au IVe siècle toute une expédition. Il a quitté donc Marseille et il est remonté le long des côtes françaises. Il a fait le tour de l'île de Bretagne. Il est entré dans les zones où la mer gèle. Il est entré manifestement dans la mer Baltique. Ça a duré plusieurs années et il est redescendu. C'est lui qui a évoqué notamment le phénomène de la marée. Les Méditerranéens ne croyaient pas en une histoire pareille. Strabon le traite de fief et coquin et menteur. La flotte de César va s'en apercevoir du phénomène de la marée. Mais c'était un phénomène totalement inconnu et inimaginable pour des Méditerranéens. Si Pythéas a pu écrire ça au IVe siècle, avant Jésus-Christ, oui, c'est en pleine période gauloise, en plein milieu de l'époque gauloise, il est évident que les routes étaient parcourues depuis longtemps. Il est simplement le premier qui en ait parlé. Et en général, d'ailleurs, les marins qui ont une route, ils la gardent secrète. Il n'y a pas de carte. Enfin bon, mais quand ils connaissent, mais ils ont des signes, des indices, etc. Ils ont des itinéraires, ils ont une clientèle. Il y a une mise en route, là, de cette voie qui, au début, était pratiquée par très, très peu de navires, mais qui s'organise. Une des questions qui se posent, par exemple pour la navigation à longue distance vers le sud de l'Europe, par exemple, une des questions qui se posent, c'est la traversée du golfe de Gascogne et la remontée à partir de la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique. Est-ce qu'ils remontaient en droiture et qu'ils visaient, je dirais, Pamar, la côte directement? Où est-ce qu'il longeait la côte des monts Cantabriques et toute la côte du golfe de Gascogne, dont on sait que c'est quand même, ce sont des zones de navigation redoutables, alors qu'en deux ou trois jours, on peut, trois, quatre jours, on peut traverser directement. Ce sont des questions à étudier. Il ne faut pas sous-estimer les capacités. Je ne connais pas bien, il y a des bateaux déjà de l'âge du bronze qui ont été découverts et où il peut y avoir un équipage quand même assez important, d'une bonne dizaine, 10-15 rameurs, avec l'aide de la voile. Il y a les fameux couraques, ces bateaux en peau qui sont connus dans le monde celtique, entre guillemets. Mais est-ce qu'ils ont servi pour le transport à très longue distance? Il y a des bateaux qui pouvaient remonter de Méditerranée. L'organisation de ce trafic pose énormément de questions parce que le produit part de A, va jusqu'à B. Mais est-ce nécessairement toujours sur le même bateau? Et une escale technique peut être aussi un lieu de changement de bateau, à la fois pour des raisons de pratique maritime, mais aussi d'organisation qui détient le pouvoir. (Tousse)
Il a une casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte bleu marine, la bouche sèche. Le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle tous les jours et nuits avec La Rochelle. Il voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. La vie le promène en Seine-et-Oise, dans sa simca. J'aurais dû y avec La Rochelle. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca. Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca.
Une navigation dangereuse, bien sûr, elle l'est toujours. Donc, aux premiers âges de la navigation, vous imaginez les périls. Et c'est là que les Ouessantins et les Iliens en général pouvaient intervenir.
J'ai imaginé, sans preuve, mais c'est pas forcément illégitime, une navigation, notamment pour la proto-histoire, c'est-à-dire l'âge du bronze et l'âge du fer, jusqu'à l'époque gauloise, une navigation à longue distance, comme ça, qui se ferait d'île en île, sans forcément toujours toucher le continent. Quitte à ce que les îles, d'ailleurs, après, servent de relais et alimentent le continent. Un ruban, en quelque sorte, indépendant, un petit peu comme une autoroute, peut traverser des régions entières sans... Vous allez de la Hollande à la Côte d'Azur, vous payez au péage et puis vous allez jusqu'au bout. Vous vous arrêtez simplement de temps en temps aux stations-service où on va même venir vous vendre le produit local et la boîte de, ou le pot de pâté ou le vin du pays. Mais le pays lui-même, vous l'ignorez. Alors, est-ce que, par exemple, pour l'étain, il y avait des gens qui l'exploitaient dans la région de Saint-Renan, par exemple, et qui venaient par des petits bateaux l'amener en attendant que les vraquiers, etc., passent et le récupèrent? Ça, on n'en sait rien. Il y a des textes qui parlent de pratiques de ce genre sur des îles au sud de l'Angleterre. Mais à ce moment-là, ce sont des îles qu'on peut pratiquement atteindre à marée basse. Bon, pour Ouessant, c'est différent. Mais on peut imaginer tout ça. Il ne faut surtout pas avoir un point de vue minimaliste de ces choses-là. Ça peut être très sophistiqué. Mais on n'en a pas la preuve. L'archéologie des routes commerciales est une des plus difficiles. Parce que le produit lui-même, mais encore une fois, il n'est pas destiné à l'île d'Ouessant. Il est destiné à continuer. Ce sont des objets résiduels. C'est le résidu du voyage. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup, parce que sur les aires de pique-nique, on voit toutes les crasses qu'on laisse. Mais c'est un petit peu ça, finalement. Il y a des périodes où la navigation est ouverte, du printemps jusqu'à l'automne. C'est évident. Ce qui n'exclut pas les dangers. On évoque toujours la grande tempête. C'est un point de vue de terrien. Ce qui est bien plus grave, et dans des régions comme celle de la mer d'Iroise, les grands dangers sont issus notamment du brouillard et de la brume de mer qui vous tombe dessus en 5 minutes et on n'exagère pas, enfin on l'a souvent constaté, tout d'un coup, une belle journée d'été, en 10 minutes, l'île est totalement noyée au port, vous ne voyez pas le bout de la jetée dans le port. Alors, si vous n'êtes pas du coin, vous êtes fichu. Ajoutez à ça, effectivement, toutes les roches affleurantes entre la marée haute et la marée basse. Si vous ne connaissez pas les roches, vous êtes perdu, irrémédiablement perdu. Si vous regardez la carte des grands naufrages qui est vendue dans tous les offices de tourisme, enfin bon, c'était autour d'Ouessant, regardez les dates de naufrages, c'est pratiquement toujours en été. Moi, je me demande s'il n'y avait pas tout au long de ce réseau une organisation, un système réticulaire qui pourrait éventuellement faire la navette entre Ouessant et l'île de Saint, puis ils remontent, ceux qui connaissent ce coin-là, puis après de l'île de Saint à Groix, et puis de Groix à Belle-Île. Il peut y avoir comme ça toute forme d'organisation avec les gens du coin, occasionnellement, parce que c'est pas 10 bateaux par jour, hein, mais qui sont capables de le faire. Piteas parle des pilotes, hein. Et puis aujourd'hui c'est pareil, hein, il y avait les bateaux pilotes qu'il fallait au large de l'île, voire attraper le premier bateau, c'était à qui arrivait le premier pour proposer ses services. Le bateau traditionnel d'Ouessant, qui a été refait en 92, c'était le bateau pilote. La position d'Ouessant est une position forcément de passage obligé. C'est même un repère un peu particulier, puisque finalement, c'est un point de rupture même dans la direction. Où que vous alliez, tout au moins à cette époque-là, quand vous naviguez à partir d'Ouessant, c'est toujours plutôt vers l'est, que ce soit vers le nord, nord-est ou sud-sud-ouest. Si vous allez vers la Bretagne, le nord, etc., c'est l'île ultime. Il faut bien voir que dans la Manche, il y a très peu de grandes îles comme ça. C'est vraiment le dernier point. Ouessant est certes d'un abord difficile, mais dans le fond, obligatoire. On souffle parce qu'on a fait le voyage, on reprend des forces et après on va repartir. On n'a pas trouvé d'arsenaux, par exemple, à Ouessant. On ne construit pas de bateaux, ce n'est pas nécessaire, mais éventuellement, peut-être qu'on les répare. On répare les hommes d'équipage, on récupère. Il y a cette fonction. On peut aussi retrouver de l'eau douce, des vivres frais. On a classé, en quelque sorte, Ouessant dans la liste des escales techniques.
Et Jean-Paul Le Billon a notamment étudié sur le site de Messe Notario à Ouessant les rituels qu'on a pu y pratiquer, en lien avec l'océan bien sûr. Ce sera le sujet du prochain épisode de nos ribines sur la préhistoire d'Ouessant. En attendant, vous pouvez consulter les tomes 1 et 2 d'Archéologie d'une île à la pointe de l'Europe, Ouessant, dirigé par Jean-Paul Le Billon, édité par le Centre de recherche archéologique du Finistère et les presses universitaires de Rennes.